Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Ta team en Poukou. Okapi.
Chers auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelles sont les revendications des communautés locales au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3 au Congo central? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Patient Mwamba. Il est responsable de la transition écologique au sein de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Monsieur Patient Mwamba, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour, monsieur Tati, et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Bienvenue dans ces rendez-vous. Si ce thème vous intéresse, chers auditeurs et auditrices, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, questions et témoignages au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de l'ingénieur Matalatala de Kisangani. Selon cet internaute, dans un projet bien organisé, il est toujours demandé de réaliser au préalable une étude sur les impacts environnementaux et socio-économiques de la population avant l'adoption de ces projets afin de proposer des mesures d'atténuation en collaboration avec la population riveraine. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoku vous présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Debs Evita réalise et assure la prise de son de ces rendez-vous. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les revendications des communautés locales au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3? Nous sommes là au Congo central. C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Patient Mwamba. Nous rappelons qu'il est responsable de la transition écologique au sein de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Et si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Les projets de construction du barrage hydroélectrique Inga 3 au Congo central est l'un des programmes les plus ambitieux de la RDC. Il vise à répondre aux besoins croissants en énergie électrique de la République démocratique du Congo et à promouvoir le développement économique et social de la région selon les gouvernements. Cependant, les communautés locales autour du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3 ont plusieurs revendications concernant notamment l'impact social et environnemental du projet sur leurs terres et sur leurs moyens de subsistance. Et ces revendications ont fait l'objet d'un forum qui a été organisé le vendredi dernier ici à Kinshasa par la CORAP. Alors, quelles sont les revendications des communautés locales au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3? Qu'elles revendiquent exactement les communautés locales au sujet de ces projets dont les financements ont déjà été décaissés il y a quelques semaines? Nous abordons ces sujets dans cette première partie du magazine Okapi Service. Patient Mwamba, dites-nous, les financements ont été décaissés dans le cadre du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3. Dites-nous, vous au niveau de la CORAP, vous vous êtes documenté sur l'incidence sur les communautés locales. Pouvez-vous nous faire une idée exacte sur cette situation sur le terrain, au sujet surtout des communautés locales?
Merci beaucoup, monsieur Tati, pour cette question qui va essentiellement concerner les préoccupations des communautés locales sur le projet Inga 3. Comme vous venez de le dire, plusieurs communautés venaient de plusieurs pays africains, mais également du continent américain, étaient réunies lors du Forum continental africain sur le mégabarrage pour essentiellement parler de questions liées aux revendications communautaires. Alors, sur ces, plusieurs revendications ont été évoquées lors de ce forum. Il y a essentiellement l'opacité qui est carrément générale sur l'accès à l'information. Les communautés disent qu'ils ne sont pas du tout informés de ce projet et de comment est-ce que ce projet sera réalisé sur leur terre. Ça, c'est le premier problème qu'ils évoquent. Mais également, les communautés disent que ce qu'ils font sans nous est contre nous. Donc, ils réclament, les communautés réclament leur participation à ce projet, qu'ils doivent, d'une certaine façon, donner leur consentement libre, informé, préalable, avant que ce projet puisse commencer. Ce qui n'a pas été fait à ce jour. Et il y a également des violences et des menaces qui sont essentiellement évoquées par ces communautés au cas où certains acteurs communautaires essayent de lever la voix et de revendiquer le droit qui le concerne. Vous allez comprendre que dans ce projet, c'est plusieurs communautés qui seront impactées si jamais le projet arrivait à être implémenté. Et cela fait risquer met la communauté dans des conditions de peur en se disant qu'ils risquent de perdre leurs terres et de perdre certains droits qui les sont légitimes.
Oui, mais monsieur Patient, vous dites que les communautés locales n'ont pas été impliquées, n'ont jamais été associées à ces processus, alors que ces communautés vivent aux alentours de ces sites où on va déployer les barrages hydroélectriques Inga 3, dont les financements ont été décaissés il y a quelques semaines. Là, nous sommes à la troisième étape de la réalisation. Est-ce que les communautés locales des Inga ou qui sont à proximité des Inga, parce que là on est à la troisième étape de la réalisation de ces grands ouvrages, il y a Inga 1 et 2 qui sont déjà fonctionnels. Est-ce que déjà il y a des incidences environnementales, des incidences du point de vue environnemental, du point de vue économique sur les communautés qui vivent aux alentours de ces sites, monsieur Patient?
Oui, monsieur Tati, l'ordre ce forum, les communautés, par exemple, de Louosi et de Songololo étaient présents, représentés. Et vous avez entendu que ces communautés étaient en train de se plaindre, par exemple, des inondations dans leur terre. disent que pour le moment, ils sont en train de perdre les terres où ils font leur agriculture, où ils font certaines activités économiques qui leur permettent de survivre. Donc, leurs conséquences, déjà avec les deux premiers projets, étaient déjà visibles. Et donc, la phase de Inga 3 et le financement qui vient d'être donné au gouvernement, c'est pour essentiellement commencer cette troisième phase qui va essentiellement concerner les infrastructures, les investissements. C'est ce que la Banque mondiale a dit. Et donc, mais cette phase commence sans que la communauté ne sache quelles sont les conséquences. C'est quoi les résultats des études d'impact environnementaux qui ont été élaborées par rapport à ce projet. Et c'est là l'inquiétude de communauté. Donc, l'inquiétude, c'est essentiellement liée au fait que la communauté sente la menace et veulent essentiellement comprendre qu'est-ce qui va se passer dans leur milieu si jamais ce projet arrivait à se réaliser.
On vous garde en ligne, Monsieur Patient. Nous rappelons que vous êtes responsable de la transition écologique au sein de la CORAP, qui est la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Quelles sont les revendications des communautés locales au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3? Chers auditeurs et auditrices, si ces thèmes vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 091 09 706 99 41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Je rappelle le numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier auditeur, il intervient depuis Inga, dans la province du Congo central, où il est prévu la construction du barrage hydroélectrique Inga 3. On va lui donner la parole. Monsieur Lukombo, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes.
Oui, vous faites partie des communautés locales de Inga où on va développer les vastes projets du barrage hydroélectrique Inga 3. Dites-nous, est-ce que vous étiez impliqué, associé dans les processus, dans ces projets-là? Est-ce que au niveau du communauté locale, vous étiez contacté dans le cadre de ces projets?
Oui, effectivement, nous avons des informations. Nous avons des informations sur ces projets, mais nous avons un peu des inquiétudes sur ces projets.
Lesquels?
Pourquoi? Parce que nous avons les problèmes que pour nous les communautés. On a construit les Inga-Inga-Dé, qui a ravagé parce qu'il y avait des animaux, les endroits où on faisait la pêche et la chasse et même l'agriculture. Mais maintenant, depuis la construction de ces deux barrages, jusqu'à présent, il n'y a aucune chose que nous avons constaté des changements. D'ailleurs, il y a la pauvreté qui règne. Et même que ces deux barrages-là, nous, la communauté, nous n'en profitons en rien jusqu'à présent. Et si vous regardez même dans les territoires de Segebanza, il n'y a aucune réalisation, aucune chose qui démontre, voilà, ces barrages-là se trouvent dans le territoire de Segebanza. Donc tout cela, même dans le Congo central, je ne sais pas, mais sinon, on veut dire que même dans le Congo central, ça ne joue pas assez grand rôle. C'est ça maintenant, nous avons un peu cette inquiétude. Parce que quand on va faire encore le Grand Inga, et ils vont encore prendre une grande partie de la terre là où nous travaillons, où nous vivons. Parce que le gouvernement n'arrive même pas de bien nous supporter. Alors que quelle qualité de sol que nous allons avoir, c'est le toit, c'est le Grand Inga. Nous voyons que oui, il y a la progression du pays, mais qui ne profite pas à nous, les communautés. C'est ça le problème que nous avons pour le moment. C'est ça l'inquiétude que nous avons. Alors, si le gouvernement Le gouvernement, il est là pour nous, nous les communautés. Il n'est pas, ce ne sont pas, les avantages de gouvernants ou de qui. Mais c'est pour nous les Congolais. Et je suis Congolais aussi, grandi Congolais, et je suis en train de vieillir aussi Congolais. Alors c'est là où se trouve maintenant l'inquiétude, parce qu'on ne progresse pas, mais on fait que s'approfondir dans les malheurs.
Oui, monsieur Lukomo, vous voulez dire que lors des grandes réalisations de projets Inga 1 et 2, les communautés locales, en termes de rétribution, de construction, par exemple, des ouvrages sociaux de base communautaire, routes, ponts, en contrepartie de ces projets, vos villages n'ont jamais bénéficié de ça?
Oui, parce que c'est bien sûr, parce que nous avons déjà des épreuves. Depuis 1972, le débarrage a été effectué jusqu'à présent. Aucune chose et qui nous intéresse, que voilà, nous avons la richesse dans notre contrée. Alors, c'est là maintenant nous avons les inquiétudes. Et nous avons maintenant la population ici, à Inga. Il y a la population, c'est presque dans le 15 ou 17 000 personnes. Bon. Maintenant, ces gens ici, ils se trouvent ici à Inga, ils font les champs, les pêches. Qu'est-ce qui va se passer à cette population? Est-ce qu'ils vont les prendre vraiment en charge? C'est ça l'inquiétude que nous avons. Les déplacements se feront de cette population ici à Inga. Oui, dans les avantages, on voit les engagements pour le chômage. Oui, là-bas, c'est possible. Mais ce n'est pas ça la vraie solution, parce que normalement, c'est prendre en charge la communauté. Mmh. Donc, c'est ça le problème que nous avons pour le moment.
Donc, il n'y a pas eu consultation et vous ne pensez pas que vous allez être consulté. Est-ce que, à votre niveau, vous êtes constitué un comité local de développement pour remonter vos réclamations auprès du gouvernement?
Si, normalement, surtout pour les ayants droit, ils font tout pour ça. Mais maintenant, le problème que nous avons, c'est le problème d'information. Donc, l'information, nous ne prenons pas.
Ne circule pas.
D'ailleurs, ce que nous constatons déjà, il y a, si on dirait, il y a quelques études. Parce que en 2015, si je ne me trompe pas, 15, 16, comme ça, ou 18 peut-être, la Banque mondiale avait débuté ces projets pour qu'ils puissent faire ce travail. Nous n'étions pas informés, mais ils avaient déjà fait des études d'impact environnemental. Nous ne savons pas, et puis c'est très compliqué.
Les enquêteurs sont passés dans le ménage pour vous interroger, vous demander ce que vous voulez exactement dans le cas où les projets Inga 3 sera matérialisé.
Mais non, pas encore, parce que normalement, nous devrons être à table avec leurs commissions. On se met en table. D'ailleurs, dernièrement, je pense, la semaine passée, nous avons vu quelques députés de l'Assemblée nationale qui étaient venus ici, mais ils n'étaient pas venus à la communauté. Ils étaient venus à la SNEL pour venir voir comment. Et ils ont déjà un plan de faire ce travail. Et la communauté, nous, les communautés, nous ne connaissons rien. Alors, c'est ça que nos inquiétudes qui nous démontrent. Est-ce que nous allons avoir la bénéfice de ça? Est-ce que nous allons être encore approfondis dans les malheurs? C'est ça le problème.
Merci beaucoup, Monsieur Lukombo. Nous rappelons que vous êtes, vous faites partie des communautés riveraines de Inga, là où on va développer les grands projets du barrage hydroélectrique Inga 3. Il se pose un sérieux problème d'accès à l'information et vous n'êtes pas consulté. Merci beaucoup. Excellente journée au Congo central. Nous partons à Kisangani pour donner la parole à Monsieur Saïdi. Bonjour, Monsieur Blaise, et bienvenue dans ces rendez-vous.
Merci, cher Tati. Je dois aller tout juste. Je salue aussi l'invité, cher Tati. Donc, les communautés locales exigent que, d'abord, qu'il y ait consultation réelle, transparente, compensation juste, préservation des droits fonciers, solutions alternatives et les retombées énergétiques équitables pour le peuple congolais. Je dois poser quelques questions à l'invité. La première question, comment le gouvernement a-t-il intégré les populations locales dans le processus de planification du projet? La deuxième question, quel mécanisme d'indemnisation était mis en place pour les familles affectées par Inga 3? La troisième question, avant de chuter, le barrage Inga 3 Maintenant, sur la biodiversité locale et les écosystèmes aquatiques, et pour citer, quel sera l'impact du barrage sur la pêche, principale source de revenus des communautés locales. Cher Tati.
Merci beaucoup, Monsieur Saïdi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Patient Mwamba, comment répondez-vous à la question de l'auditeur de l'auditeur de Kisangani? En même temps, Monsieur Lukombo qui se plaint, il se pose un sérieux problème d'accès à l'information sur les déroulements ou les avancées de ces projets.
Merci beaucoup. Je crois que je salue également M. Lukombo et notre auditeur qui nous suit depuis Kisangani. Je crois que M. Lukombo fait partie de communauté et vous l'avez bien entendu. Mm. Il a répondu à une partie des questions de M. Saïd. M. Saïd, il voulait savoir si le gouvernement a intégré, comment est-ce que le gouvernement a intégré les communautés dans le projet. Mmh. Et je crois que quand j'ai commencé à parler ici, j'ai dit que le projet INGA 3 parle des infrastructures et des emplois, des investissements qui vont être mis en place à INGA même pour booster l'économie. Mais vous vous rendez compte que cela est fait sans que ça soit la demande réelle de communauté. Vous voyez que les communautés sont en train de se plaindre sur les questions existentielles de leur
milieu
de vie. Mm. Et donc ça, c'est le plus important. Et le besoin de communauté devrait être prise
en compte,
vraiment en priorité, en compte, pour que cela soit reflété dans le projet, ce qui n'est pas le cas. Et donc, pour la question de compensation, vous comprenez que on ne peut pas faire de compensation sans savoir réellement quels sont les impacts ou les implications de l'implantation de ces infrastructures-là. Donc, d'où le besoin d'avoir des études d'impact environnemental et social qui vont essentiellement déterminer quelles sont les retombées de ces infrastructures. Et après, prévoir les compensations qui pourront venir. Ce qui n'a pas été fait, et d'où la crainte de communauté de se dire, est-ce que cela ne va pas carrément dans le sens de désapproprier les communautés de leur terre? C'est ça la crainte et la grande crainte que nous avons. Et les communautés se demandent aussi, est-ce que ce projet est essentiellement fait pour nous, pas nous, peuple digne à cet an, mais également pour nous, le peuple congolais. Vous voyez? Mm. Donc, toutes ces questions sont primordiales, doivent être prises en compte. On ne peut pas entrevoir des compensations sans avoir une étude d'impact environnemental vraiment comme priorité, mais aussi sans avoir le consentement
des communautés locales
libres de ce communauté-là.
Mm.
Voilà. Et donc, ça, ce sont des questions que nous soutenons. Mais concernant les menaces sur la biodiversité, essentiellement, oui, il existe beaucoup de menaces. Vous voyez que ce sont les eaux qui débordent et qui vont dans des endroits où les communautés étaient essentiellement de faire leur agriculture, mais également les rivières sont débordées et les poissons, qui sont essentiellement la biodiversité la plus importante là-bas, est perturbé dans son système de reproduction et cela a des impacts sur les travails de pêcheurs et toutes les communautés qui vivent essentiellement de ce travail-là. Donc, il y a essentiellement risques et menaces sur la survie de ces communautés du point de vue environnemental comme du point de vue économique.
On retourne au standard. Patient Mwamba, nous rappelons que vous êtes responsable des transitions écologiques au sein de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Gardez l'écoute, on va retourner au standard pour donner la parole à Patrick Oudia qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Quelles sont les revendications de communautés locales au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Avant de donner la parole à Maître Patrick Oudia, il y a Monsieur Timba qui fait partie également de la population, de communauté locale qui veut intervenir. On va lui donner la parole. Bonjour Monsieur Timba et bienvenue dans ces rendez-vous. Monsieur Timba, vous m'entendez?
Oui, allô?
Allô, Madame Timba, on vous donne la parole. Hein. Vous faites partie de communauté locale au niveau des Inga 3. Dites-nous, quelle est la revendication que vous émettez à l'intention des décideurs, Madame Timba, concernant les projets de construction du barrage hydroélectrique Inga 3?
Merci beaucoup. Eloko tozolo ba ngai naza Angelique Voizolo nazali communauté locale na kata Inga.
D'accord.
Problème na biso pona makambo ya Inga 3 ezali il faut que na na ba étude d'impact environnemental. Toke na ba étude parce que ba étude yango nde muteko déterminer ekopesa résultat ya sir. Parce que pourquoi tous les baboué, tous allés dans cette Inga, batonga Inga 1, Inga 2, ils allaient pe, bah pe ça, bah quoi qu'on a vu, ça peut bah promettre à Malamu, que bah qu'on construire, bah qu'on tonge la bise, bah prince, bah qu'on sale la bise, bah hôpital, bah biloko est belé, mais en vrai Dieu, bah biloko on a installé massé. Y a encore zoom on attend où les cambouya Inga 3 et y. Avant, bisoto zana likamba koloba, ekoza malamu toke nana ba étude d'impact environnemental et sociaux, yangonde muteko déterminer, ba décision mususu.
Et, olingi koloba ke, donc, depuis, on a réalisé les projets Inga 1, 2, bino communauté locale, bo bénéficia presque na elo côté. Est-ce que, d'abord, projet wana Inga 1 à 2, et ça, ezala na ba conséquence, na ba activité na bino localement? Maman Vuzolo.
Bon, je pense que projet nous au essentiel maka, ezanga kaba impact malamu pe ba impact ya mabete. Ezangi te parce que soki na lobby par exemple, nakata inga ndenge toza awa ba toza na inga batonga inga e inga de, mais bana na biso bazo sala te. Bazo sala te tozo mona ke bato mosusu bazo uta. Musika bazo ya kosala. Et puis ba mabele même soki même ba production ya babiloko ndenge to banda konzuela na kala même soki lelo boke na Inga bolekisi micro balader bokoyoka peut-être koza na munoko na ngai te avant ndenge production ezalaka pona biloko ya kolia ekoma faible liboso ezalaki okolona saki moko ya nguba ozwi bisak. Mais lelo changement climatique est comme qu'on menace biso makai kokolo na biloko okomi ko risque na oyo loni kutu on perdre yango na yango ozomona donc na banza na répondre yo clairement
si ko bino bozo senga exactement nini maman Vuzolo.
Bon, biso tozo senga vraiment ce qui ezali recommandation donc kokai koloba na ba kontina biso pas reconnaître la communauté locale pour le bazo qu'on vivre la kati ya Inga parce que Inga n'est pas wana ezali mboka ezana ba yandwa et puis ezali na ba communauté pour le baya uniquement pour la construction ya barrage alors tout ça la considération na ba état pignons à considérer population au bas au vivre na kati ya mbokana et puis na ba étude d'impact environnement bazala associé na ba état pignons ezala tete ngo bazoko sala ba étude wana biso tozo ye ba teke bazo sala ba étude na mbokana biso et après pour que ba étude sala mi to kota na ba résultat ndenge zo pesa mais bo bangi ezali kaka tozo yoka délocalisation otoko ki ko lobela ngo makasi c'est parce que nini étude na me définir te c'est ça le problème.
Merci beaucoup, hein, Maman Vezolo. Bonne journée au niveau des Inga. Je me tourne vers vous, Patrick Oria. Maître, vous êtes à Lubumbashi. On vous donne la parole par rapport à ces sujets concernant les projets de construction du barrage hydroélectrique Inga 3. On vous donne la parole, Maître.
Bonjour, bonjour l'invité à tous les auditeurs de la radio Capi. Je pense que à part l'intervention de la maman, qui est l'une des participantes de la communauté locale, vous pouvez voir que les projets, bien qu'est important pour la desserte électrique et énergétique également en RDC, nous avons besoin de ça, mais ça doit être également fait dans le respect des normes. Moi, je parle sur l'aspect juridique également. Donc, tout projet, je n'ai pas fait des projets, mais tout projet, au moins les EAB, les BAC que nous connaissons, on devait commencer à désintéresser d'abord la communauté locale, ceux qui ont les droits fonciers sur l'endroit en question, ceux qui ont des concessions forestières également. L'État devait mener, ou l'État en l'occurrence, devait mener des études pour compenser. C'est ce qu'exige la communauté locale. Et en écoutant la maman, elle exige tout simplement qu'on aurait dû commencer par identifier d'abord les auteurs ou de bénéficier des droits fonciers sur ces terres, sur lesquelles sera érigée Linga 3 également, mais aussi pour que la transparence soit faite. Mais comment voulez-vous que lorsqu'on parle d'un état des droits, mais on commence directement, même si c'est un projet à impact visible également, mais on devait intéresser. Un autre élément, monsieur le journaliste a dit, c'est aussi la participation de la communauté locale dans la main d'œuvre. Vous pouvez bien beau avoir l'entreprise chinoise, indienne, américaine et tout ça, mais daigner également y associer la main d'œuvre locale, cela permettrait la protection durable dans le temps, voyez-vous, oui, du projet. Mais dès lors que vous isolez la main d'œuvre locale, même dans les petits travaux, cela pourrait ne pas avancer. Et nous qui avons grandi au village, nous connaissons les réalités traditionnelles et ancestrales dans ces termes. Alors il est important que l'État puisse prendre ou mettre en place un comité ad hoc pour identifier d'abord la population locale, c'est qui ont d'abord les droits censés sur les terres, et en plus également sélectionner quand même quelques mains d'œuvre importantes qui peuvent participer à ces projets dans la construction pour que celle-ci, cette main d'œuvre, puisse également jouer le rôle de protectrice, mais aussi, on va dire, de communication également locale. Dès lors qu'il n'y a pas la communication entre, d'une part, l'État congolais, mais aussi la communauté locale, même si le projet est important, rappelez-vous les principes. Ce qui est fait pour nous, mais contre nous, sans nous et contre nous. Il en est de même dans ces cas d'espèce également, même si c'est pour le bien-être de la population, mais si la population n'est pas intéressée, ne connaît pas la redevabilité qu'exige ce genre de projet, je pense que nous allons tourner autour comme le chiffre 4 par exemple, 60 ans, 50 ans. Et peut-être à ces 50 ans, on va parler de Inga 3 toujours.
Merci beaucoup, maître Patrick Odia. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous avez pris la parole. Merci pour tes suggestions. Excellente journée. On part à Bukavu pour donner la parole à Éminent. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous, monsieur Mwanda.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour aux auditeurs et particulièrement aux habitants. Où le barrage doit être érigé.
Nous vous écoutons.
Nous savons très bien qu'à RDC, le vrai problème est qu'on veut résoudre un problème en créant un autre. Tous nous sommes locataires de l'État, on peut même titulaire vraiment naturel de la terre. Mais comme nous sommes locataires, selon le prescrit légal, nous sommes de certains droits attachés à la propriété dans les deux. Il y a d'abord la jouissance et la disposition. Alors, quand l'État veut résoudre le problème à la desserte électrique, en voulant renforcer le débarrage Inga 1 et Inga 2 pour construire le troisième barrage, on devait d'abord étudier certaines faisabilités avant que ces lois soient faites. Parce que la population qui habite cette terre-là a aussi plutôt droit de vivre et de peut-être de maintenir. Donc, si on veut construire un barrage à utilité publique, sans pour autant d'abord consulter la population, comme l'avions bien suivi, comme nous avons décidé de la Mamala, probablement est devenu victime, faut déjà vouloir préparer l'échec de
ces projets
là-bas. Parce que quand la population, quand la population va s'énerver, va s'opposer, je ne sais pas si va encore continuer à exécuter ce projet. C'est pour cela qu'il y a encore temps que l'État puisse d'abord approcher la population, prendre les décisions et voir ce qui peut être faisable avant que les projets soient effectifs. Le contraire de ça, c'est peut-être vouloir chercher comment détourner l'argent du projet, disant que la population a été opposée à l'exécution du projet. La question que je peux poser à ce stade du débat, est-ce que l'État congolais connaît le véritable enjeux pour ériger ce barrage-là, parce que dans le développement durable, dans le développement communautaire, on ne développe pas une entité, mais on se développe. C'est pour cela que la participation de la population est importante dans tout projet de développement du métier.
Merci beaucoup, monsieur Éminent Mwanda. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu, au Sud Kivu, que vous avez pris la parole. Je me tourne vers vous, monsieur Patient Mwamba. Comment répondez-vous à nos auditeurs qui demandent à ce que l'on puisse impliquer réellement les communautés locales concernées par ces grands projets de construction du barrage Inga 3? On a écouté la deuxième dame qui a témoigné, qui a dit que elles n'ont jamais été consultées et puis elles n'ont pas accès à l'information sur l'évolution de ces projets, alors que déjà pour le barrage hydroélectrique Inga 1 et 2, il y a déjà des incidences sur les vécus quotidiens des communautés locales.
Alors, merci Tati. Je crois que ce sont des contributions à ce que nous disions depuis tout à l'heure. Mais ce que moi je peux dire, c'est peut-être formuler de par rapport à tout ce qui vient d'être dit, formuler quelques petites recommandations déjà au gouvernement de pouvoir développer des visions de développement socio-économique qui répondent essentiellement aux besoins des populations locales et non de projets qui vont dans le sens de répondre aux demandes uniquement de multinationales, ce qui n'est pas une très bonne chose parce que quand les informations ne circulent pas, on ne sait pas trop bien c'est quoi le pourcentage réservé aux communautés ou à la population congolaise, c'est quoi le pourcentage d'énergie réservé aux industries. Et tout ça, ce sont des informations qui devaient être disponibles
vulgarisées,
pour permettre à ce que toute la population puisse être au courant de ce qui est fait pour leur bénéfice. Et dans les demandes de Madame Angélique, vous sentez qu'il y a également ce besoin de participation. Les communautés veulent participer à toutes les étapes de ce qui sera fait. Entre autres, des études d'impact environnemental pour leur permettre, ensemble avec eux, si les dégâts sont constatés ou les risques sont constatés ensemble, les mesures d'indemnisation et tout le processus qui peut venir vont se faire de manière participative et non les imposer la manière et la façon de faire les choses. Il y a également cette transparence. Tu vois, il faut que l'État garantisse carrément la transparence des informations autour de ce projet. C'est quoi le financement? Qui le fait? Est-ce que c'est un endettement? Tout ça, ce sont de choses que tout le monde doit savoir. Et je clôturerai par dire qu'il faut renforcer le cadre juridique pour protéger essentiellement le droit de
des communautés locales
qui seront essentiellement impactées par ces projets des grands envergures.
On va retourner au standard. Il y a un auditeur qui appelle de Lubumbashi. Justin Koulou, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Monsieur Tati, bonjour et je dis bonjour à notre invité qui est au studio aujourd'hui.
Nous vous écoutons. On est en train de tabler sur le revendication des communautés locales au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3.
Bien sûr, je vous ai bien suivi. Je voulais poser la question à notre invité avant de commenter un peu là-dessus. Il est au courant que les fonds décaissés par les gigaprojets comme ça sont gardés à Kinshasa. Il y a une organisation qui gère les fonds communautaires à Kinshasa. Ici à Fungurume, mais on appelle ça fonds social. Donc il y a les fonds sociaux que la société telle que Fungurume Mining donne à la population impactée. Mais on n'a pas décentralisé ça, on a centralisé. Donc c'est Kinshasa qui décide s'il y a une construction d'une école, il y a une route à réhabiliter, il y a le champ à financer. Est-ce que notre invité est au courant de cette procédure? Ça c'est un. De deux, il y a les communautés locales ne sont pas informées des virements des fonds dans les comptes de leur caisse. Ils sont là que pour les demander quel projet que vous voulez qu'on fasse pour vous. Et on ne sait pas les montants, c'est combien. Là, on ne sait pas. C'est moi une partie prenante. Je dois connaître ce qu'on va faire pour moi et avec combien d'argent. C'est là où nous assistons des bévis. Moi, je suis un entrepreneur. Je soumissionne pour les constructions de la communauté locale et je suis aussi une population impactée puisqu'il y a des gigaprojets qui sont érigés dans notre camp. Alors, mais nous fustigeons aussi avec nos amis du Congo central les mêmes problèmes qu'on décentralise les fonds, qu'on donne aux gestionnaires directs. Si l'IGF est là, il va aussi suivre cela, qu'on connaisse, nous voulons un projet de tel montant, est-ce que les montants ont été exécutés. Il y a je ne sais pas comment appeler ça, les fonds commencent à être volatilisés depuis Kinshasa par le bureau de Kinshasa, le bureau provincial. Et l'entrepreneur aussi qui va exécuter l'ouvrage, lui aussi, va couper quelque chose. Alors, dans cela, c'est ce qui cause les suspicions. Étalons la gestion, il n'y aura pas de lamentation. Si la gestion est opaque, pourquoi vous comprenez des histoires qui se passent? Parce que nous ne voulons pas minimiser l'affaire. Nous voulons encore la compliquer en cherchant à rafler nos poches et la population s'énerve, c'est puisqu'ils sont des poltrons, ils n'ont pas de moyens de défense. Si nous avons cette force de se prononcer même à la radio au Capi, c'est ça la réalité qui cause les problèmes. La population impactée ne bénéficie pas directement à l'ouvrage qui est érigé. Kinshasa gagne les taxes, Kinshasa gagne les douanes, il y a les sorties des histoires, on paye toutes les histoires. Mais on suit encore cet argent décaissé pour la population impactée. C'est là où il y a de sérieux problèmes s'ils peuvent correctement réhabiliter les droits de gérer cette somme par la population active.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Justin Koulou. Vous plaidez pour la transparence. Il faut pas qu'il y ait opacité dans la gestion des fonds. Et puis, les projets doivent profiter aux communautés locales. Nous rappelons que vous appelez depuis Fungurume. Excellente journée. Nous retournons au Congo central, à Inga, pour donner la parole à M. Luamba Nzita, qui fait partie de communauté locale. M. Nzita, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour à vous.
Nous voulons recueillir votre témoignage sur ce projet de construction du barrage Inga 3, qui est un vaste projet du gouvernement congolais. Est-ce que vous, qui faites partie de communautés locales, vous êtes associé à ces processus?
Voilà ce que je peux dire. Jusqu'à ce jour, on se sent un peu écarté, hein, parce que lors des consultations avec les autres parties prenantes, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas encore impliqués. Voilà ce que je peux dire. Hein. Nous ne sommes pas encore impliqués.
Vous n'êtes pas impliqués pourquoi? Est-ce que au niveau local, vous n'avez pas un comité qui fait les suivis, vous n'avez pas vu les enquêteurs passer dans le ménage et vous poser des questions sur ce que vous pensez sur ces projets?
Bon, jusque-là, pas encore. Nous, au niveau local, nous avons des associations. Mmh. Et je peux dire que nous avons une organisation communautaire intitulée CODICLI, auquel toutes les communautés locales convergent. Mais il y a eu des rencontres, entre autres, avec les communautés autochtones, mmh. bien sûr, les premiers occupants de terre. Mmh. Mais concernant les populations en général, nous ne sommes pas encore impliqués jusqu'à ces jours.
Oui, mais qu'est-ce qui était ressorti, s'il vous plaît, monsieur Nzita, qu'est-ce qui était ressorti de ces rencontres entre l'État congolais et les ayants droit coutumiers?
Bon, la sortie entre les ayants droit coutumiers et l'État congolais, ça reste un peu dans leur cuisine interne. Hein,
oui.
Parce que jusque-là, mmh. on n'a pas des informations sur cette question.
Vous n'avez pas d'informations sur cette question, mais est-ce que vous qui vivez oui. À proximité des Inga, il y a déjà les Inga 1 et 2 qui sont fonctionnels. Est-ce que il y a des incidences sur votre vécu quotidien en ce moment depuis le développement de ces deux grands projets Inga 1 et 2? Est-ce que cela a impacté sur votre vécu quotidien dans les temps?
Évidemment, oui. Parce que si vous regardez au niveau du fleuve, il y a des perturbations d'eau à chaque moment. Et même le champ au niveau communautaire, il y a les cultures qui ont baissé de production. Voilà, il y a aussi les fameux contentieux auxquels les premiers occupants réclament jusqu'à ces jours. Ils n'ont pas touché leurs indemnités jusqu'à ces jours. Voilà les préoccupations qui sont là.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous revendiquez exactement, M. Nzita?
Ce que nous voulons aujourd'hui, mmh. c'est le préalable, les études d'impact environnemental et social. Et cela soit aussi participatif. Donc nous voulons que nous participions à toutes les échéances, parce que nous sommes aussi une partie prenante. Donc c'est ce que nous désirons. Et puis, parce qu'on nous dit déjà qu'il y aura des localisations des communautés, mmh. il faut un plan de réinstallation. Il faut qu'ils viennent nous expliquer au fait. Nous ne savons encore rien officiellement de... Parce que ils nous disent, nous écoutons par les ondes ou dans d'autres voies, mmh. mais proprement dit, qu'ils viennent nous consulter ou nous parler du projet jusqu'à tel jour. On les attend encore. Voilà ce que je peux dire.
Donc, il y a un problème d'accès à l'information. Vous apprenez qu'il y aura des localisations des ménages, mais jusque-là, on n'a pas évalué le nombre de ménages à délocaliser et ainsi que les processus de relocalisation. C'est ça le problème, les grands problèmes, et c'est là vous inquiète.
Oui. Jusque là, il n'y a pas encore un programme. C'est ça. On n'a pas de données, hein, de données exactes. Ça nous inquiète vraiment. Il faut qu'ils viennent nous consulter. Et puis, l'information, hein, parce que c'est garanti même par la loi. On a droit à l'accès à l'information. Et jusque là, ça ne fait pas de façon de prévoir la loi. Voilà ce qui nous inquiète aussi.
Merci beaucoup, M. Ntimba. Nous rappelons que vous faites partie d'une communauté locale qui vit à Inga et vous souhaitez que l'on puisse vous impliquer de bout en bout dans la démarche. Mais là, vous avez l'impression que vous êtes en train de subir l'évolution de ces projets, M. Ntimba.
Oui. Nous subissons déjà avec Inga et Inga 2. Il y a même les expatriés qui sont venus nous voir. Ils savaient que après quelques années, il y aura des impacts négatifs qui suivront. Voilà pourquoi c'est pour cette raison que nous voulons vraiment être impliqués et pour comprendre tout ce qui se passe. Voilà ce que je veux dire.
Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous avez déjà pensé à élaborer un cahier des charges que vous allez soumettre au gouvernement congolais, M. Ntimba?
Oui, on est en pleine élaboration de ce cahier des charges. Entre les communautés aussi et mmh. les autochtones.
Pouvez-vous nous faire une idée sur les grandes lignes de ces cahiers des charges, de ces revendications? Okay.
Bon, les revendications sont telles que je venais de dire tout à l'heure, mmh. les études d'impact environnemental participative, la prise en compte de toutes les parties prenantes, un programme de réinstallation, s'il y aura des localisations, et dans tous ces aspects de choses-là que nous voulons faire notre cahier de recherche. Ce sont celles-là les grandes lignes.
Merci beaucoup et excellente journée. Monsieur Patient Mwamba, nous rappelons que vous êtes le responsable de la transition écologique au sein de la CORAP. On a écouté à nouveau Monsieur Ntimba qui fait partie des communautés locales. Et vous, au niveau de la société civile, comment est-ce que vous suivez cette actualité? Est-ce que vous également, vous avez des difficultés d'accès à l'information liée au développement de ces projets?
Oui, Monsieur Tati, je crois que je dois remercier tout le participant, surtout ceux qui viennent de INA, qui expriment essentiellement le besoin de leur contrat. Je crois que le besoin d'information est à tous les niveaux. On a tous besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe, parce que vous savez qu'on parle de INA 3, parce que il y a eu en juin cette signature d'accord entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Mais ça, c'est des informations qui sont reprises dans des éditions de radio, de médias.
Exactement.
Il est essentiel qu'il y ait des échanges vraiment à la base avec les communautés qui expriment leurs besoins et qui veulent essentiellement comprendre ce qui va arriver à leur vie. Et donc ça, ce sont des informations qui sont essentielles. La première phase de ce projet parle des investissements. C'est quoi les investissements qui vont être créés? C'est quoi les infrastructures qui vont... Est-ce que ces infrastructures ont été demandées par les communautés ou c'est une forme de corruption morale pour dire on va vous faire ceci et à ce moment, les communautés seront carrément obligées d'accepter parce qu'ils vont voir que ce projet apporte des éléments qui ne seront peut-être pas des éléments primordiaux pour leur existence. Et donc, c'est une difficulté qui est à tous les niveaux et nous demandons essentiellement que cela soit fait de manière beaucoup plus transparente et que les concernés soient le premier à avoir les bonnes informations sur ce qui va arriver dans leur milieu.
Mais est-ce que vous, au niveau de la société civile, est-ce que vous avez par exemple approché ADPI, l'agence de développement du projet barrage Inga, pour avoir des plus amples détails sur l'évolution de ces projets? Oui, c'est vrai parce qu'on a appris, par les biais des médias, ces décaissements pour la construction du projet du barrage hydroélectrique Inga 3. Mais est-ce que vous avez approché les autorités de tutelle pour avoir des plus amples détails sur cette initiative? Vous, au niveau de la société civile, vous n'avez pas également accès à l'information, c'est ça?
Les discussions pour entre la société civile et les autres parties prenantes, entre autres la DPI et la Banque mondiale, sont déjà envisagées parce que je venais de vous dire que lors du forum, cela a été exigé et nous saluons également la présence de la Banque mondiale lors de ce forum-là, où les communautés ont exprimé cela de manière beaucoup plus claire. Et donc les discussions vont se poursuivre, elles existent déjà. Mais vont se poursuivre pour que toutes ces demandes qui sont formulées à différents niveaux puissent être adressées et que nous puissions avoir des solutions beaucoup plus durables pour l'ensemble du peuple congolais, et particulièrement ceux qui sont et ceux qui vivent à Inga.
En conclusion, on est presque à la fin de ces rendez-vous, Monsieur Patient Mwamba. Nous rappelons que vous êtes responsable de la transition écologique au sein de la CORAP. Que revendique aujourd'hui vous, la société civile, concernant ces grands projets qui sera réalisé dans les prochains jours?
Je crois que les revendications au gouvernement. Je venais de le formuler.
C'est l'accès à l'information.
C'est vraiment cette transparence au niveau de l'information. C'est également assurer la participation de communautés locales à toutes les étapes qui vont constituer ce projet et surtout renforcer le cadre juridique pour permettre à ce que les communautés se sentent sécurisées, surtout sur leur terre, parce que s'ils ne vivent plus à ces endroits-là, ils doivent savoir réellement où est-ce qu'ils vont vivre.
Merci beaucoup, M. Patient Mwamba. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous et excellente journée.